la bibliothèque en vadrouille poursuit à rencontrer diverses personnes sur le salon du livre de Genève, aujourd'hui donc en cette fin avril. Et là, nous avons un petit moment de rencontre au CAN, derrière le cercle, enfin plutôt à l'extérieur du cercle, qui est un espace dédié aux éditeurs genevois, dans lequel nous avons rencontré Benoît Jacques. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'avoue que je suis très content de vous rencontrer. C'est via un collègue du département que je vous rencontre, Alain Poncé, qui lui-même expose via ses éditions tout proche d'ici La Clé à Molette. Et donc, je voulais vous demander d'abord un souvenir, puisqu'il se trouve que moi, je n'étais pas là à l'époque, mais vous avez été invité dans notre espace en 2003. C'était à l'occasion d'une coproduction avec le festival Illico de Kingersheim en Alsace. Et donc, peut-être un vague souvenir, même si ça remonte déjà, sur cette exposition qui avait été organisée en nos murs.
Ben, le souvenir que j'en ai, c'est que la présentation que j'avais faite était liée à une installation, c'est un mot un peu pompeux, mais pour un objet que j'avais appelé planche, le mot planche au pluriel, et qui rassemblait une série de planches en bois détachées de palettes, donc de, vraiment les palettes de transport, que j'avais peinte au latex blanc et sur lesquelles j'avais fait des espèces de bandes dessinées improvisées. Et mon idée, c'était de partir sur une sorte de plaisanterie autour du vocabulaire utilisé par les gens qui font de la bande dessinée, qui parlent de planches, qui parlent de cases, qui parlent de bulles. Et je m'étais imaginé comme étant quelqu'un venant d'une autre planète, entendant ces mots et disant « moi aussi, je peux faire des planches de bande dessinée ». Et donc, littéralement, j'avais dessiné sur des planches en bois et fait ces bandes dessinées qui étaient vraiment des objets improvisés. Et donc autour de cet ensemble de planches, parce que c'était un sacré gros paquet, alors je ne sais pas si tout ça a été exposé au lieu à l'époque, mais en principe oui, il y avait alors un objet central très, très étrange que j'avais fabriqué à partir de cagettes de fruits démantibulées. Et l'objet en question, c'était une espèce d'esquif de barque assez étrange comme ça. C'était assez aussi volumineux, on va dire. C'est un objet qui faisait 5 mètres de long, avec une voile. Et de nouveau, j'avais entièrement griffonné sur cette barque et sur la voile et sur tout ce qui entourait la barque des espèces de bandes dessinées improvisées. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, enfin, c'est pas lié au souvenir de cette exposition en particulier, mais sur cet ensemble d'objets, c'était de rendre au regardeur sa part d'interprétation, c'est-à-dire que il y avait dans les petits dessins dessinés sur ces planches, il y avait des situations avec des personnages et les personnages avaient des phylactères, donc ces fameuses bulles qu'on trouve en mode dessiné, mais dans les phylactères il y avait une graphie indéchiffrable, on va dire, donc c'était à la personne qui regardait l'objet à inventer son histoire, si on veut. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans la mesure où moi je considère que toute œuvre ou toute chose créée n'existe que parce qu'il y a d'un côté quelqu'un qui crée, et puis il y a aussi quelqu'un qui regarde. Et c'est plutôt cette rencontre qui m'intéresse, surtout dans une époque où on a tendance à très fort idéaliser le créateur, voire à le mettre sur un piédestal, alors qu'en réalité le créateur on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la chose qui a été faite et la rencontre entre cette chose et un éventuel public, quoi.
D'accord, alors maintenant peut-être un petit voyage à travers trois de vos publications qui sont présentées sur le stand là. Alors il y en a une que j'ai eu le temps de feuilleter davantage lors de ma première visite tout à l'heure avant de réaliser ce petit entretien, donc c'est Play It By Ears. Alors là, je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus, en ce moment, avec des jeunes, je travaille sur la partition et sur la représentation visuelle de la musique. Alors là, peut-être, on peut commenter quelques-unes de ces partitions, oui, puisque ça en est. Et puis, il y a un élément très graphique, évidemment, la musique expérimentale, par exemple, voilà, celui-là, je ne sais pas, ou d'autres, mais celui-là peut-être en particulier parce que nous avons la chance d'avoir un rayon musique expérimentale assez conséquent dans notre médiathèque.
Simplement pour décrire ce que j'ai dessiné, c'est la musique expérimentale, ce sont des notes qui sont inscrites entre les portées musicales. Il n'y a rien sur les portées elles-mêmes, et elle est plutôt entre dans l'espèce d'espace qu'il y a entre les portées. L'ensemble de ce livre, alors ça me plaît d'autant plus que vous l'ayez choisi, que c'est un livre très très important pour moi, parce que c'est le premier livre que j'ai fait en auto-édition et qui a été finalement l'amorce de tout mon parcours de vie depuis. En ce sens que depuis, je n'ai fait que de l'auto-édition. Tous mes livres sont publiés par moi-même, je n'ai pas d'éditeur. Donc c'est un mode de production assez particulier, surtout qui s'inscrit dans la durée. Il y a beaucoup d'expérimentations qui se font comme ça, mais généralement, elles ne tiennent pas le coup très longtemps. Ce livre-là, sa première édition remonte à 27 ans maintenant, donc vous voyez, c'est pas rien. Et c'est quelque chose d'important pour moi, c'est cette inscription dans le temps. L'idée que on est dans une époque où les choses sont consommées très rapidement, et pour moi c'est important de m'inscrire dans la durée comme ça. Et alors, pour venir plus particulièrement sur ce sujet de la partition musicale, de son aspect purement graphique, c'est cette idée toute simple mais que je trouvais vraiment belle, qui est que ce langage graphique de la musique est un langage qui est décodable par tous, même les gens qui ne font pas de la musique, à savoir que quand on est face à une partition musicale, où qu'on soit dans le monde, on sait qu'on regarde de la musique. Même si on ne connaît pas le solfège, même si on ne peut pas déchiffrer la partition en elle-même, on sait qu'on est face à de la musique. Et bon, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit ce serait assez amusant d'explorer cette forme graphique pour en faire des espèces de... Alors on va dire de plaisanterie visuelle autour de la partition.
Tout à fait. Alors là, il y en a un autre que je trouve formidable, puisqu'en plus, on est dans une année anniversaire autour de Satie.
Mais oui.
Donc là, c'est assez frappant aussi. C'est la musique pour la poire, c'est ça, c'est
le... Alors, Satie a fait un morceau qu'il appelle pièce en forme de poire. Satie, c'est quand même assez extraordinaire, parce que Satie est quelqu'un qui dessinait. D'ailleurs, il y a eu à une époque un très très beau livre que j'ai vu une seule fois, de petits dessins très étranges d'Éric Satie. Donc on sent bien cette parenté entre le fait que l'écriture de la musique, c'est déjà aussi une forme de dessin. On pourrait d'ailleurs dire de toute façon que l'écriture, c'est une forme de dessin. Hein. Ce sont des lettres, mais c'est quand même, ça utilise les mêmes outils que le dessin. Et donc effectivement, Satie... On sent bien dans toute son œuvre la présence de l'humour également, dans l'idée des titres très étranges qu'il a parfois donnés à ses pièces musicales. Enfin, autant de sujets qui, moi, me touchent vraiment énormément dans mon travail à moi.
Alors, le deuxième que j'ai choisi et extrait de la pile des livres auto-édités, là, c'est un cas peut-être un peu particulier puisqu'il est co-édité avec donc une association... Marseillaise, collectif d'éditeurs qui s'intitule Photokino, et c'est l'album à colorier. Donc ça, c'est un projet assez récent, si j'ai bien compris.
C'est l'album à colorier.
Pardon, j'ai mal lu.
C'est pas tout à fait un album, c'est un album. Alors là, oui, parce qu'on rentre dans ce qui me plaît aussi énormément, c'est la manipulation du langage et des mots, et comment, en les détournant, tout d'un coup, on interpelle le lecteur de façon particulière. Bon, alors, en réalité, c'est pas forcément un livre de coloriage, c'est plutôt une espèce d'assemblage d'images qui réunissent ma vision de Marseille, puisque là, en l'occurrence, c'était publié pour l'occasion d'une exposition à Marseille, ma vision de cette ville et de cette région, quoi, cette fameuse région PACA, avec laquelle moi je me suis amusé pour imaginer toute une série d'images.
Et puis le dernier, alors celui-là, c'est peut-être un ensemble, une forme d'épopée, enfin le titre m'évoque ce mot, mais peut-être que je me trompe, avec là, pour le coup, la façon dont vous écrivez votre nom, qui est assez drôle. Là. Alors là, ça va être dur de l'expliquer de manière sonore, mais peut-être que je vais vous laisser le faire du coup.
Oui, alors vous vous trompez pas du tout, c'est une épopée, et c'est tellement une épopée que pour l'instant il y a 2 tomes de paru, mais mon idée c'est de la poursuivre, et je peux pas vous dire combien de tomes il y aura, parce que ça dépendra de mes finances et de voir si je fais faillite ou non avant d'avoir pu tout écrire. Mais donc c'est une épopée qui se passe dans un pays imaginaire que j'appelle la Palachine, qui, comme son nom l'indique, n'est pas la Chine. Et ça s'appelle La légende de Pyongfu, qui est un des personnages du roman à venir. Alors, c'est difficile pour moi de vous en parler, mais ce qu'il y a d'intéressant par rapport à mon nom et ma façon de l'orthographier, donc je m'appelle pour l'occasion Benno Wazak. Ça, c'est parce que j'ai grand plaisir, d'une part, à jouer avec mon propre nom. Bon, moi, il se trouve que mon nom de famille, c'est un prénom qui est le prénom Jacques, et mon prénom, c'est Benoît. Donc, c'est pas facile de se faire un nom dans la vie, et c'est encore moins facile de se faire deux prénoms. Donc, j'aime beaucoup jouer avec ça, d'autant plus que, si vous voulez, dans toute maison d'édition qui se respecte, il y a généralement un domaine étranger. Alors, pour alimenter ce domaine étranger, j'imagine des œuvres faites par des gens qui n'existent pas. Là, en l'occurrence, c'est cet écrivain, on ne sait pas trop qui c'est, en tout cas venu de cette contrée orientale lointaine que serait la Palachine. Et mon envie, là, c'est de voir, si vous voulez, jusqu'où les gens qui s'intéressent à mon travail sont prêts à me suivre dans mes délires, en réalité.
Très bien. Alors, peut-être pour terminer ce petit entretien, puisque vous êtes là sur le salon depuis, je pense, quelques temps, enfin, vous êtes arrivé depuis 2-3 jours. Est-ce que vous avez eu le temps peut-être de faire une rencontre ou comme ça d'un autre livre que vous auriez eu le temps de feuilleter, puisque bon, c'est une question toujours difficile, mais c'est de récolter aussi un conseil de lecture, ou pas forcément d'ailleurs pendant le salon, ça peut être quelque chose que vous lisez chez vous en ce moment, mais comme ça une sorte de, alors le mot est un peu galvaudé peut-être, mais coup de cœur ou voilà une découverte récente dont vous pourriez nous dire un mot. Dans tout domaine, littérature.
Oui. Ça ne serait pas sur un livre en particulier, mais ça serait sur une maison d'édition.
Voilà, un éditeur, bien sûr.
Genevois, donc d'ici, que je trouve absolument extraordinaire, tant par la qualité des textes qu'ils proposent que par, alors ça c'est très important pour moi, la qualité des éditions, c'est-à-dire la beauté des mises en page, le soin apporté aux objets. Parce que ça, je ne sais pas si ça apparaît bien dans ce que je fais, mais c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je m'auto-édite, c'est que j'accorde énormément d'importance à la qualité des objets livres, avant même ce qu'on pourrait apporter comme jugement sur leur contenu au niveau des textes et des images. Après tout, on peut aimer ou ne pas aimer ce que je fais, peu importe, mais j'ai une grande passion pour en faire des objets qui soient satisfaisants, vous voyez, qui soient particuliers et satisfaisants. Et un des éditeurs ici que je trouve vraiment fabuleux s'appelle, la maison d'édition s'appelle Héros Limite. Et bon, ben c'est de nouveau une toute petite structure, mais qui fait des livres magnifiques. Vous les verrez là si vous faites un tour.
Et ça tombe d'autant bien que nous en avons certains à la médiathèque.
Ah voilà.
Notamment un très beau livre du frère d'Élisée Reclus, Élie Reclus, un très beau livre sur le pain. Une sorte de traité sur le pain qu'ils ont ici dans les rayons.
Là. Que nous avons... Alors, c'est marrant que vous parliez d'un livre du frère d'un écrivain. Il y a un livre du frère de Laurence Durel, dont le prénom, je ne sais plus, mais c'est un Durel aussi. Et le livre s'appelle « Mon ami Rosie », je crois. Et c'est une histoire magnifique d'un homme et de son éléphant.
Très
son
bien.
Éléphante.
En tout cas, merci à vous, Benoît, pour ce petit échange comme ça dans les coulisses du salon. Et puis, ben, bonne fin de salon. Et puis, ça va donner envie à la fois déjà à moi, à titre privé, et puis aussi, j'espère, à tous les auditeurs de rentrer davantage dans votre univers. Merci.
Merci à vous.